Alors, on va reprendre donc, puisque après avoir eu le droit à la pause dans une journée d'études, vous avez droit maintenant à reprendre la réflexion sur les droits culturels. Alors, juste un rapide mot d'introduction avant notre table ronde. Les plus perspicaces d'entre vous auront noté qu'il nous manque un intervenant. Alors, Jérôme Triot vous prie de bien vouloir l'excuser. Il ne peut pas être des nôtres ce matin pour la table ronde, un impératif de dernière minute. Il en est désolé. Mais je rassure ceux qui sont inscrits pour la visite de cet après-midi, il sera là. Et pour ceux qui voudraient se consoler, et je sais qu'ils sont nombreux et nombreuses, Jérôme Triot sera là le 6 décembre à la BPI pour notre forum sur les équipements mutualisés. Donc, on est jaloux, c'est sûr. Donc, inscrivez-vous si vous voulez avoir le rencontrer et pouvoir discuter avec lui. Voilà pour la promo. La table ronde, donc, qui s'intitule, je reprends mon antisèche, « Comment inscrire les droits culturels dans nos territoires, partage d'enjeux, de questions, de doutes ?» Parce qu'on a vu que les questions sont nombreuses autour des droits culturels. Et justement, en parlant de questions, avec ma collègue Élise Mahacha, qu'on n'a pas encore citée et que je remercie, parce qu'elle aussi a contribué à l'organisation, on a regardé les quelques contributions que les uns et les autres vous avez notées sur les post-it. Alors, certains éléments ont déjà été présentés, certains éléments de réponse. Vous en aurez aussi à la table ronde. Et puis dans les ateliers, mais c'est pour partager au niveau collectif. Donc, je vous les cite un peu dans le désordre. Comment mettre en application les droits culturels dans le fonctionnement des équipements? Quels sont les projets ratés, les pièges dans lesquels ne pas tomber? Quelqu'un plus enthousiaste a dit aussi les projets innovants. Comment traduire et comprendre les droits culturels dans ses pratiques, dans sa posture? Et puis, comment connaître les besoins réels des publics qui ne viennent pas ou qui sont éloignés du milieu social, culturel auquel appartiennent les bibliothécaires? Et enfin, la question qui a été déjà en partie évoquée, d'accueillir tous les publics, notamment quand les valeurs et leur culture sont paraissent parfois très lointaines. Et j'en termine avec une rapide présentation de nos intervenants. Donc, sont présents avec nous, et je les en remercie, Sabine Métral, directrice de la Bibliothèque départementale de la Manche, qui va nous parler, donc elle aussi, des droits culturels sur son territoire, mais je ne vous spoil pas davantage la table ronde, et Xavier de Lasselle, directeur des musées de Gadagne, que je remercie également au nom des organisateurs d'être présents, et qui fera une visite pour certains. Je crois qu'il reste de la place à la visite, si jamais certains avaient des remords. Notamment autour de la scénographie repensée à la lumière du droit culturel. Mais là aussi, je ne vous en dis pas plus. Et je cède sans plus attendre la parole à Anne Aubry, qui est chargée de mission droit culturel et qui a bien voulu accepter la difficile mission de modérer cette table ronde. Elle fait partie aussi du réseau Culture 21 que je lui laisse présenter.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Effectivement, je travaille pour Réseau Culture 21. Donc, c'est une association qui développe depuis maintenant une dizaine d'années des démarches d'analyse de politique publique au regard des droits humains et tout particulièrement, bien évidemment, au regard des droits culturels. Et donc, quand on parle de politique publique, et c'était pour répondre aussi à une des questions posées, effectivement, on s'intéresse à toutes les politiques publiques puisqu'on est dans le domaine des droits humains et que les droits humains, on ne peut pas les saucissonner comme ça et dire bah, « tiens, tel droit, ça intéresse tel secteur et tel secteur ». C'est vraiment le fondement de toutes nos politiques publiques. Et donc, on s'est penché sur des politiques sociales, culturelles, éducatives, mais même d'aménagement du territoire, des politiques de la ville, etc., etc. Ça, on ne choisit pas en amont à quoi on va s'intéresser. C'est plutôt comment on va finalement découvrir un milieu, des acteurs, des façons de penser, des manières de faire, et qu'on va regarder au prisme des droits culturels. Et du coup, on travaille avec des collectivités, des structures, des réseaux d'acteurs qui le souhaitent. On ne s'impose pas. Et du coup, notre méthode est finalement d'organiser des espaces de travail en commun qui permettent de rassembler divers acteurs de divers secteurs, quelle que soit leur fonction ou leur niveau hiérarchique. Et ça, c'est un point capital pour nous, c'est-à-dire qu'il nous semble primordial de favoriser le croisement des points de vue, des savoirs sur une même situation, et que c'est ça, finalement, produire de l'intelligence collective, et qui, au final, est le socle même, ou devrait être, normalement, le socle même de nos démocraties. Donc, on n'a rien inventé, finalement, comme méthode, c'est reprendre les fondamentaux de ce qu'est une démocratie fabriquée par le croisement des savoirs dont les personnes sont porteuses, les personnes impliquées et concernées par les situations vécues. Et du coup, l'outil avec lequel on travaille est principalement fondé sur l'analyse de la pratique réalisée par les acteurs et les actrices elles-mêmes. Nous, on est en accompagnement des formulations, on est en accompagnement des façons de traduire les 8 droits culturels sur lesquels on s'appuie. Donc on s'appuie vraiment sur la déclaration des droits culturels présentée par Patrice ce matin, qui a... c'est un outil très précieux parce qu'il permet vraiment de décliner, cette déclaration permet vraiment de décliner ces fameux droits culturels, de leur donner un contenu et de comprendre, et ça a été très bien repris aussi par Cécile, de reprendre le fait que, de comprendre qu'ils sont complètement indivisibles et interdépendants, mais comme l'ensemble des droits humains. On ne peut pas s'intéresser à un seul droit humain sans comprendre qu'il est en interdépendance et en connexion complète avec l'ensemble des droits humains. Voilà, et donc vous l'aurez compris, on travaille en collaboration étroite avec l'Observatoire de la diversité des droits culturels situé à Fribourg et coordonné par Patrice Meyer-Biche que vous avez entendu ce matin. Donc voilà pour faire le petit tour sur Réseau Culture 21 et dire un peu plus d'où je parle et pourquoi on m'a sollicité finalement à animer cette table ronde. Et sans plus attendre, nous allons passer au cœur de cette table ronde. Donc finalement, comment mettre en œuvre ces droits culturels sur les territoires? Là, nous avons deux précieux témoins de cette expérience-là de travail des droits culturels sur leur terrain, dans leur structure. Et ce qu'il y a de super intéressant, c'est qu'ils n'ont pas le même contexte de travail. Ils n'ont pas forcément la même manière de les mettre au travail aussi au sein de leur structure, même s'il y a des points de résonance, évidemment. Donc, ce que j'ai envie de leur poser comme première question, c'est votre première fois avec les droits culturels, si j'ose dire. comment vous avez découvert ces fameux droits culturels et qu'est-ce qui vous a particulièrement interpellé dans ces droits, j'allais dire personnellement parlant. Donc Xavier, peut-être que toi, tu m'as dit que c'était plutôt le fruit du hasard ou tu parles de rencontres impromptues. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette rencontre avec les droits culturels?
Oui, alors effectivement, c'était un peu en mode, il y avait de la lumière et je suis rentré. Alors je raconte ça comme une première fois. Effectivement, c'était un peu bizarre. Ça s'est passé il y a une douzaine d'années. J'étais à ce moment-là, j'étais pas encore dans le poste que j'occupe aujourd'hui à la ville de Lyon, au musée Gadane. J'étais au RIS, à Villeurbanne. Et on accueillait ce jour-là, au bout du couloir où se trouve mon bureau, dans un espace d'atelier, on avait prêté une salle à un groupe pour une formation. C'était l'association Culture pour tous qui organisait cette formation. Et puis je me suis dit, je vais aller saluer les gens qui sont là. Et puis j'ai compris que c'était une formation qui parlait de... Je crois que c'était marqué droit culturel sur les petits papiers. Et puis je suis rentré et je me suis présenté. Et il y avait Patrice Meyer-Biche qui faisait une petite formation pour une journée entière pour un groupe d'une dizaine de personnes. Donc je suis resté 2 secondes. Et après, je me suis assis et puis je suis resté la journée finalement. C'était un peu une découverte vraiment très surprenante et qui m'a d'autant plus impressionné qu'elle a rejoint vraiment beaucoup de questionnements que j'avais. Et ça rejoint la question sur l'aspect plus personnel de mon évolution professionnelle et puis de ce que je découvrais depuis peu de temps finalement dans le contexte villeurbannais, assez éloigné dans les questions à la fois des thématiques et puis également les approches des métiers de la culture que je découvrais parce que je suis un archiviste en fait. Non, c'est un peu le divan, la confession. Et en fait, les archivistes, je disais à Anne tout à l'heure que j'ai été marqué par la lecture d'un article il y a une trentaine d'années d'une archiviste qui était intitulée « Les Indiens de la culture ». Et dans les mondes des archives, on se demande si on fait partie de la culture. Il y a toujours une espèce de doute, de question existentielle. Est-ce que quand on travaille sur des archives, on est dans le domaine culturel ? Et des journalistes me posaient la question il y a très longtemps sur une exposition qu'on avait faite. Est-ce que finalement, vous travaillez avec une artiste contemporaine, vous entrez dans le monde de la culture ? Et donc là, d'un seul coup, plus précisément, la question, finalement, qu'est-ce qui m'interpelle particulièrement dans le droit culturel ? Alors, déjà, la déclaration de Fribourg, c'est l'article 2. Et dans les mois et les années qui ont suivi, j'avais appris par cœur la définition, enfin, l'article 2, donc la définition de la culture, à la fois une partie d'originalité, puis la, comme on l'a dit plusieurs fois ce matin, la synthèse aussi de définition, et qui d'un seul coup répondait à plein de questions que je me posais, et notamment en transcendant ou en dépassant cette opposition un peu bizarre entre d'un côté la culture cultivée, légitime, etc., et puis la culture qu'on dit au sens anthropologique, la manière dont les gens s'habillent, ce qu'ils mangent, comment ils vivent. Et là, c'était une définition qui allait au-delà et qui était beaucoup plus globale et qui avait beaucoup plus de sens pour moi. Et qui également, mais on en reviendra aussi, poser ces questions du rapport avec les personnes, au-delà de la question des publics. Et voilà, donc il y avait à la fois ce caractère fortuit de cette découverte, et en même temps, ça venait rejoindre à ce moment-là de ma vie, mon parcours professionnel, où je travaillais dans une institution qui, aujourd'hui encore, qui synthétise aussi une fonction archive, une bibliothèque, et puis une action, une programmation, une action culturelle et scientifique qui emprunte au monde du spectacle vivant, de la recherche scientifique. Donc il y avait quelque chose de pluridisciplinaire. Et donc, avec les collègues, il y en a une qui est ici dans la salle, il n'est plus au RIS comme moi, mais on inventait ensemble une manière de synthétiser plein de choses. Et là, ça venait de donner un socle philosophique. Donc du coup, enfin, et juridique un peu aussi, mais pour moi d'abord philosophique, qui venait éclairer plein de choses et appuyer l'action qu'on pouvait essayer de développer.
Merci Xavier. Donc, on va passer à ton témoignage aussi de ta première fois avec les droits culturels. Donc, moins du fait du hasard, toi, pour toi, Sabine, c'est donc dans le cadre d'une démarche donc, qui a été qui démarrait dans le département de la Manche. Donc, raconte-nous tout ça.
Donc, pour moi, c'était en 2014. Donc, lorsque le département de la Manche a adhéré à la déclaration de Fribourg. Et donc, il y a eu une volonté très forte de la directrice de la culture, hein, Laurence Loyer-Cambourg, d'engager une démarche d'évaluation des politiques publiques au regard des droits culturels, donc en partenariat donc, avec le réseau Culture 21. Mais Anne, je crois que tu y étais déjà. Ouais. Donc,
discrète, mais j'y étais.
D'accord. Et la volonté, donc, à ce moment-là, c'était vraiment de sensibiliser un panel très large d'acteurs, les acteurs culturels du territoire, mais aussi les agents du département dans la sphère culturelle, mais aussi au-delà. Donc, les acteurs du social étaient invités, des agents de la direction des collèges, de l'éducation, du numérique, de l'administration, et tout niveau hiérarchique confondu.
Donc, y compris des élus. Hein.
Oui, et des élus aussi, oui. Donc, y a eu des séminaires, des ateliers en groupe, des journées d'études. Donc, c'était très nouveau, tout ça, hein, pour aussi bien le sujet des droits culturels, donc, dont on avait quasiment pour jamais entendu parler, et de même que la démarche. Donc, c'est vrai, je me souviens des conférences, des intervenants, donc, comme Patrice Meyerwisch, qui portait des discours vraiment très passionnants. Tout ça, enfin pour certains, enfin moi je parle à mon niveau, ça pouvait sembler vraiment très conceptuel, et on avait l'impression, enfin on pouvait avoir l'impression qu'on allait entrer dans une démarche très exigeante intellectuellement. Et donc la méthode aussi était nouvelle, hein, le fait de travailler en groupe, les forums ouverts, tout ça. Enfin voilà, donc tout ça c'était vraiment très très nouveau et sincèrement ça pouvait aussi être déstabilisant pour pas mal de personnes. Donc peu à peu, la méthodologie aussi s'est affinée. Donc on s'est approprié les outils, notamment pour apprendre à relier les droits culturels à nos pratiques en faisant de l'observation de méthodiques de cas d'école. Donc c'est la démarche qu'Anne décrivait tout à l'heure. Donc c'est-à-dire qu'à partir de nos pratiques professionnelles, donc on avait une grille très méthodique et le but de l'exercice c'est de décrire une pratique, un service, une action, un projet au regard en détaillant ses enjeux, les acteurs impliqués, en quoi ça consiste et ensuite d'en faire l'analyse au regard des 8 droits culturels. Donc que je me trompe pas, identité, diversité, patrimoine, communauté, participation, éducation, information et coopération. Et donc, à chaque fois, le but, c'est de se demander en quoi la pratique s'inscrit dans tel ou tel droit, et en identifiant les aspects positifs et négatifs. Il y a eu quand même une production assez intense de cas d'école. Et c'est cette démarche qui vraiment, moi en tout cas, m'a permis de donner plus de sens à nos actions, de rentrer un peu plus dans du concret et de réorienter certains choix donc de façon un peu plus éclairée. Surtout, enfin moi ça a été vraiment important pour moi, c'est que j'ai pris conscience qu'il était indispensable d'associer plus étroitement nos partenaires dans la mise en place des actions. Et comme on arrivait à une époque où on allait devoir entamer un travail pour refaire notre schéma départemental de développement de la lecture publique, donc là, c'était de toute façon évident que ce travail-là, on allait vraiment le faire en associant nos partenaires, et non pas avec, de façon un peu traditionnelle, comme on peut le faire chaque fois, en sollicitant un cabinet d'études, et puis en interne, dans nos bureaux, à rédiger le schéma à partir de préconisations émises par un cabinet d'études. Donc là, c'était évident qu'on n'allait pas procéder de cette façon-là.
Le lien est bien fait, je trouve, entre cette grande démarche, donc, qui, vous l'aurez compris, était départementale, et donc qui a finalement, au terme duquel on a finalement rédigé un texte de synthèse des enseignements qu'on pouvait tirer de toutes ces analyses de cas et qui a donné le projet de développement des droits culturels pour la Manche. Donc c'est un document que j'ai là, que vous pourrez consulter, avec différentes thématiques. Pour les citer, c'est habiter, hériter, œuvrer, apprendre, informer, coopérer. Donc c'est assez calqué aussi sur les droits culturels au final, et qui en donne une déclinaison sur le territoire. Et du coup, c'est là ma deuxième question. Comment toi, finalement, tu as pu t'appuyer sur ce document cadre pour le travailler en interne au sein de ta structure, et qu'est-ce qui a évolué au final dans les manières de faire ou de travailler?
Déjà, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Aussi, je voulais aussi revenir sur quelque chose qui a été évoqué, c'est que le travail des bibliothécaires en général, il entre assez facilement en résonance avec les grands principes des droits culturels, avec les valeurs. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On en retrouve l'esprit dans des textes un peu socles, comme la charte de l'UNESCO, nos politiques documentaires, des codes de déontologie. Donc, un des premiers réflexes était de se dire, oui, d'accord, très bien, mais c'est ce qu'on fait déjà. Mais mais c'est vrai que le travail quand même d'analyse vraiment très méthodique qu'on a pu faire, ça nous permet de nous rendre compte que malgré tout, même si ce qu'on fait est vraiment très, très juste, il y a toujours des freins à lever, enfin des habitudes à re-questionner, des pratiques un petit peu à revoir. C'est pas, enfin, le but, c'est pas de vraiment de remettre en cause nos pratiques, mais plutôt de les re-questionner, hein, de prendre un petit peu de hauteur pour voilà, pour les analyser et les regarder un peu différemment. Donc voilà, donc c'était justement pour, enfin aussi un peu pour déjouer un petit peu le sentiment d'inquiétude qu'on pouvait avoir au départ quand on est rentré dans la démarche. Donc et c'est vrai que bon, le fait d'avoir produit ce document cadre. Donc nous, en 2019, donc on a vraiment pu s'en emparer pour élaborer notre nouveau schéma départemental de lecture publique. Et donc l'objectif, c'était de le faire en partenariat avec nos partenaires et aussi que ce soit fait en interne, pas entièrement par l'équipe. Donc, parce que moi, effectivement, j'avais bien participé à l'ensemble des, enfin, aux principaux rendez-vous, les séminaires, des forums, tout ça, mais ce n'était pas du tout le cas de l'ensemble de l'équipe. Et puis, c'est vrai que pour certains, c'était un peu un ovni, quoi, cette affaire-là. Donc, il fallait vraiment qu'on s'en empare. Donc, du coup, toute l'équipe, enfin, je dis quasiment toute l'équipe a été associée. On a simplement donc été formés aux méthodes participatives pour acquérir un petit peu plus d'aisance pour pouvoir mener des consultations. Donc les consultations, on les a menées vraiment auprès des habitants. Donc aussi bien les publics qui fréquentent les bibliothèques que ceux qui ne les fréquentent pas. On est allé faire des reportages ou interviewer donc des personnes
une illustration,
ouais, sur des marchés, sur le marché, sur un marché, dans le hall de la piscine municipale ou du cinéma. Donc ensuite on a vraiment aussi associé nos partenaires. Et on a fini la démarche avec des forums pour travailler sur des propositions d'action. On voit que en fait ça a été un peu un travail d'entonnoir en fin de compte. C'est toute la récolte de ces consultations qui nous a amené au constat qu'on pouvait vraiment relier tout ça au droit culturel. Et donc c'est pour ça en fait que donc on est parti d'un document cadre qui était ponctué par des verbes qui reprenaient les droits culturels. Et nous, en filtrant un peu tout ça, donc on a pu reprendre 4 verbes donc qui illustrent les orientations stratégiques de notre schéma. Donc habiter, apprendre et informer et coopérer. Donc là, on voit un peu le résultat visuel des forums, donc la phase finale, et aussi dans les documents précédents. Donc ça vraiment tout a été fait en interne. C'est-à-dire que y a des collègues qui ont travaillé sur le dépouillement très formel des récoltes. Et puis on a d'autres qui avaient des petits talents de dessinateur. Donc on mis ça en image. Donc c'est vraiment comme ça qu'on a réussi vraiment à impliquer toute l'équipe.
Merci Sabine. Je pose cette question là aussi de la traduction dans ta structure, Xavier, tu peux parler aussi du RIS, même si, voilà, de tes expériences passées aussi, et puis au musée Gadagne aussi, comment tu travailles ça?
Alors, je vais essayer de distinguer. Pour moi, il y a un peu deux choses, deux blocs différents, deux périodes dans ces deux contextes professionnels différents que j'ai vécu successivement, celui du RIS et donc celui de Gadagne. Donc, dans le premier cas, c'est une jeune institution qui se cherche, qui essaie d'inventer des choses sur la base d'une feuille de route politique très claire, mais qui était basée sur des grandes invitations, enfin, des grands slogans presque, qui étaient à la fois qui avaient du sens, mais qu'il fallait incarner sur la question de la participation des habitants, la question des cultures ouvrières, la question des mémoires des immigrations. Donc tous les ingrédients étaient là. Et puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ça n'allait pas se faire tout seul. Et alors même que d'ailleurs, on avait l'impression que ça, c'était satisfaisant, le fait que l'institution avait ouvert ses portes et qu'on avait communiqué là-dessus, tout se passait comme si finalement, pour les médias, peut-être pour les politiques, les choses étaient faites. Parce que l'institution symbolisait cette intention, mais qui n'était pas forcément vraiment totalement incarnée. Et donc là, l'idée, c'était de voir comment on allait s'y prendre. Et on est allé chercher du côté de l'éducation populaire. Alors, éducation populaire politique, il y a des partenaires dits éducation populaire, donc centres sociaux, MJC, etc. Mais là, on est allé chercher du côté des SCOP, les émules de Franck Lepage, pour ceux qui connaissent, le pavé à Rennes, et puis on est allé chercher ses collègues, ses suiveurs, je ne sais pas comment dire, à Grenoble, l'Orage, et on a organisé des déformations professionnelles. Atelier de désintoxication de la langue de bois. Voilà, et ça a été. Alors, toutes les collègues, on était 25, tout le monde y est passé. Et on a expérimenté des méthodologies, ce qu'ils appelaient le petit patrimoine méthodologique de l'éducation populaire, système de brigade mobile, où on se retrouve, je me suis retrouvé avec une stagiaire des archives en pied d'immeuble à côté de la mosquée de Villeurbanne, il pleuvait en fin d'après-midi, avec des banderoles, ils sont où les ouvriers, parce qu'on voulait travailler sur la question ouvrière. Et donc, en fait, voilà, donc très concrètement, de la formation, d'aller chercher des méthodes, des techniques presque, alors fondées sur des intentions fortes, mais très concrètement, et peut-être juste pour dire que pour moi, ma découverte professionnelle à ce moment-là la plus forte qui m'est restée, c'est qu'en réalité, ça a une première incidence, une première conséquence très forte sur les équipes, sur les métiers, sur la manière de concevoir sa profession ou ses professions, et les relations entre nous, et jusqu'à la gouvernance même d'une institution, d'une organisation, parce que, en fait, il y a un effet boomerang. On ne peut pas commencer à discourir sur les gens, les personnes, etc. Et puis, ne pas commencer à se poser des questions sur savoir comment les processus de décision, prendre en compte les valeurs des membres d'une équipe, etc.
Donc ça, c'est très important là ce que tu dis. Effectivement, on a l'impression quand on parle de droit culturel, on parle toujours des publics, mais on le met à l'extérieur de nous-mêmes. Or, on vient là interroger nos propres relations les uns aux autres, avec tous les rapports de domination aussi ou d'asymétrie qu'il peut y avoir, d'emprise, de prédation, tout ce qui est dénoncé finalement ou contre lequel on lutte au travers des droits humains et du respect de la dignité des personnes. Et du coup, effectivement, c'est à tout un chacun de se poser ces questions-là, j'allais dire, vraiment dans ces relations les plus quotidiennes, les plus proches. Voilà, c'est ce que ça change finalement, les droits culturels. C'est autant des choses qui viennent faire résonance avec des choses personnelles, mais aussi dans nos façons de nous organiser et de travailler aussi les uns avec les autres. Qui était déjà aussi énoncé avec ce que tu as dit, Sabine, le travail en interne, avec les équipes, avec les partenaires, etc. Excuse-moi, Xavier.
Non, mais moi, ça me permet de rassembler mes idées pour la suite. N'hésite pas. Et pour essayer justement d'être le plus concis possible pour qu'on ait du temps aussi pour les échanges. Peut-être pour illustrer quelques exemples concrets de projets qu'on a pu faire. Et puis ensuite, comment ça, en arrivant dans un musée, ce que n'est pas le RIS, ce que ça produit aussi, comment les choses se passent aujourd'hui à Gadagne. Au RIS, j'ai en tête des expériences de projets autour, par exemple, des langues parlées sur le territoire, ou bien une expérience de collecte aussi d'images, enfin de photos, de films, mais ça a surtout été des photos, un projet qui s'appelait « Faisons connaissance », avec un jeu de mots sur le titre « Faisons connaissance avec nos voisins, avec notre propre quartier, et en même temps, fabriquons ensemble de la connaissance Et sur le projet des langues, il y avait l'idée aussi, à partir du patrimoine archivistique de la ville, documentaire, de permettre à des personnes de traduire dans leur langue les descriptions qui étaient au départ en français et de juxtaposer ensuite chacun intervenait pour traduire puisque le bilinguisme existe partout, enfin les gens parlent français et puis ils parlent une ou autre, plusieurs autres langues et donc ces projets nous ont amené aussi à nous interroger sur la place de l'institution. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une institution quand on est une institution publique? Quel est notre rôle, notre responsabilité? Et donc une question fondamentale pour moi. On fait pas du droit culturel, j'allais dire. Enfin, on travaille pas sur cette question de la même façon selon qu'on est une association, par exemple, une compagnie de théâtre ou un musée ou une bibliothèque. Les associations font des projets pour avoir de l'argent. Les institutions publiques ont de l'argent et ensuite doivent faire des projets avec. Et je trouve que la question de l'asymétrie est très importante parce que, et donc j'ai retrouvé, il y a une journée d'études il y a 3 ans, droit culturel et musées, organisée par l'ICOM, l'Organisation mondiale des musées, au musée de Bretagne, et à un moment donné, Patrice Mirbich, qui était présent, encore lui, a dit un truc, j'ai relevé, enfin j'étais pas présent, moi j'ai lu après ce qui s'est dit, et en fait, cette question qui pourrait paraître de la une espèce de dérive, limite démagogique d'une institution qui dirait non mais nous on n'est rien, ce qui compte c'est les gens vont venir et c'est eux qui savent, nous de toute façon voilà, enfin je caricature un peu. En fait il a une jolie expression un peu comme ça qui peut paraître un peu conceptuelle mais de qui parle de réciprocité asymétrique, c'est-à-dire qu'il y a une réciprocité, il y a quelque chose à développer de ce côté-là en raison du droit culturel, de considérer toute personne comme porteuse d'une culture, d'un savoir, et en même temps, l'institution publique, avec sa symétrie de richesse, de déséquilibre, de concentration de compétences, de ressources, d'argent, de savoir, de connaissances, de patrimoine, de collection, etc., enfin, y a quelque chose d'extrêmement, donc ça confère, dans un premier temps, pour moi, à l'institution, une réelle responsabilité, mais qui ne peut pas, dans l'optique du droit culturel, se passer d'une réflexion sur l'établissement de relations réciproques mais qui se construisent. On peut pas, ça va pas se faire comme ça. Et donc cette question, donc elle se poursuit. Enfin, elle existe. Quand j'arrive à Gaydan il y a presque 7 ans et demi, je découvre le monde des musées dont j'ignore tout. Au passage aussi les arts de la marionnette dans lequel il y a beaucoup de choses à faire aussi du côté des droits culturels, dont j'ignore tout également. La seule chose que je connais un peu, c'est des collections liées à l'histoire d'une ville. Bon, c'était plus mon sujet. Je retrouve des problématiques qui sont liées au patrimoine et à la relation au territoire. Et au fait, alors pour aller vite, le fait qu'aller se poser la question de la participation, parce qu'il y a tout un débat critique dans les sciences humaines et sociales sur une forte critique de la participation, de l'injonction à la participation des gens. Une grosse remise en cause aussi de dire est-ce que c'est pas un peu louche, hein, c'est une petite vidéo de Camille Jutant qui est en infocom à Lyon 2 et qui est interviewée par l'Observatoire des politiques culturelles de Grenoble et le titre c'est faire participer les gens, est-ce que c'est pas un peu louche? Et donc il y a quand même parfois des intentions un peu détournées qui procèdent parfois d'une injonction politique, il faut être participatif, l'instrumentalisation, y compris dans beaucoup de projets artistiques hein, qui sont pas forcément très, très honnêtes de ce point de vue-là. Et donc, par contre, pour moi, la responsabilité d'une structure qui a pour vocation à mettre en scène le récit de la ville pour donner à ses habitants des clés de lecture de leur territoire, pour qu'ils puissent relier leur histoire personnelle à l'histoire de ce territoire, si on définit comme ça la responsabilité d'un musée de ville, eh bien, en fait, il y a une espèce de logique, disons, qui nous conduit à considérer les habitants de ce territoire, alors au sens très large, même un touriste, c'est aussi un habitant du territoire, et même ceux qui ne font qu'y travailler mais qui n'y habitent pas, tout le monde détient des connaissances, une expertise d'usage, même des préjugés, mais enfin, on ne part pas de rien. Et donc, en fait, pour moi, quand on a commencé à retravailler le projet scientifique et culturel qui a été validé cette année par le Conseil municipal de Lyon, en même temps que le projet d'établissement de cet établissement où nous sommes ce matin, les droits culturels apparaissent à 2-3 endroits, un peu comme la nôtre. On a glissé ça dedans, mais pas par alibi, mais parce que ça avait du sens, mais on n'a pas développé plus que ça. En revanche, les méthodologies que nous essayons de mettre en œuvre dans la construction des expositions qui nous amènent à reconstruire complètement le parcours permanent du musée d'histoire, on a introduit, et j'étais... J'étais super content de voir qu'avec les collègues qui je travaille, on était, tout le monde n'avait pas les mêmes références. Tout le monde n'a pas appris par cœur l'article 2 de la déclaration de Fribourg. Mais en fait, quand on a commencé à parler de gens, d'habitants, de parties prenantes, d'être à l'écoute du territoire et aussi un peu de méthode, en fait, c'est parti tout seul. En fait, tout le monde avait envie de ça, tout le monde comprenait que c'était une logique. Et on a organisé des brigades mobiles pour aller... Alors maintenant, on a introduit un vélo-musée qui se promène, qui fait des petites stations comme ça sur les marchés, dans les lieux publics, pour engager des conversations et en essayant d'expérimenter quelque chose qui ne soit pas trop, trop cadré, trop vite, ni comme un outil de communication.
Codifié,
ni on met de la médiation hors les murs. Ça peut être un peu ça aussi, mais parce que parfois, il faut des outils pour engager les conversations et de voir ce que ça fait, en fait. Ce que ça nous fait, ce que ça peut produire. Ça produit beaucoup de résultats déjà dans le fait de faire tomber nos propres préjugés sur les gens, les publics. Et déjà, rien que ça, c'est déjà beaucoup. Et voilà, je ne vais pas être trop long. S'il y a des questions après, on peut...
Je vois que le temps file, mais c'est très bien parce que ça nous fait le lien avec la question suivante, finalement. On vous sent... J'allais dire, oui, vous avez traversé des expériences et vous avez mis en application au travail ces questions des droits culturels au sein de vos structures. Ça a fait changer des choses, ça a fait bouger des postures, des façons d'être en relation. Si vous aviez à énoncer les problématiques qui restent encore présentes et qui le seront toujours, parce qu'on n'a pas fini, finalement, à se poser des questions sur nos relations les uns aux autres. Quelles problématiques voudriez partager aujourd'hui et témoigner ? Du coup, Sabine, peut-être ?
Oui. Donc, les problématiques, elles sont à plusieurs niveaux. Donc, dans l'équipe, déjà, pour commencer. Ça reste malgré tout une notion assez complexe, les droits culturels, et très conceptuel hein, pour certains. Donc il est difficile encore d'embarquer les collègues sur cette notion-là dans leur pratique quotidienne. Bon, et surtout les collègues qui sont sur des tâches plutôt d'exécution, donc qui, eux, très d'emblée, ne se sentent pas du tout concernés. Alors c'est vrai qu'en bibliothèque départementale, c'est peut-être encore plus accentué parce qu'il n'y a pas d'interaction directe avec le public. Donc du coup, la prise de conscience, elle est peut-être un petit peu plus difficile à appréhender. Donc voilà, bon, il y a aussi une problématique au niveau de la collectivité. Donc l'évaluation, on en parlait tout à l'heure. Hein. Donc l'évaluation des actions au regard des droits culturels, c'est pas intégré du tout dans les outils standards d'évaluation des politiques départementales. Autant maintenant, on peut avoir des choses qui vont être intégrées de façon transversale, comme l'égalité femmes-hommes ou la transition écologique. Les droits culturels, non. Enfin, en tout cas, nous, on n'en est pas là encore. Donc, il n'y a pas de critère hein, qui permet d'évaluer l'effectivité ou le respect des droits culturels de nos pratiques. On ne peut pas dire qu'est-ce qu'on a fait dans l'année pour mieux respecter ou développer les droits culturels. Ça n'existe pas. Ce n'est pas du tout la tendance, hein, puisqu'on est plutôt maintenant sur des rapports d'activité qui tentent à se réduire sur des indicateurs de plus en plus chiffrés avec quelques exemples. Mais donc voilà, on n'est pas... trop dans cette tendance-là. Donc, sur le budget, par exemple, on ne va pas développer ou argumenter la création ou le développement d'une ligne budgétaire pour développer les droits culturels. Donc, ça, non, ce n'est pas du tout encore à l'ordre du jour. Ou encore dans les rapports qui vont être présentés en commission permanente. Donc, voilà. Donc, c'est quand même une notion qui a encore beaucoup de mal à sortir de la sphère culturelle. Donc, et qui reste mal comprise. Et on a aussi parfois, c'est arrivé, des phénomènes un peu de rejet. C'est arrivé. Il y a eu des périodes un petit peu difficiles parfois. Donc, voilà. Puis le troisième niveau, c'est nos partenaires. Donc, les bibliothèques partenaires, donc c'est pareil avec. Ça rassemble à. Il y a des bénévoles, il y a des salariés, enfin voilà, donc ça représente un panel de personnes qui appréhendent les choses de façon très très différente. Et explicitement, cette notion des droits culturels, même si on l'a évoqué quand on a présenté notre schéma, c'est pas du tout intégré de façon très explicite dans les formations qu'on peut proposer. Donc ça, c'est un travail qu'on va pouvoir mener dans les mois à venir.
Donc, c'est vrai que sur les terrains, on a pu constater de nombreuses fois finalement l'autocensure des personnes sur leur capacité à interpréter, à traduire des textes. Alors, c'est clair que c'est pas les textes les plus fluides, hein, la Déclaration des droits culturels, c'est pas un roman, quoi. C'est pas une fiction, c'est un texte juridique. Et c'est vrai qu'on s'autocensure sur notre capacité à interpréter, venir chercher ce que ça pourrait vouloir dire dans nos contexte et en gros parler des droits culturels dans ses propres mots. On en est là plutôt là aussi avec Réseau Culture 21 dans nos méthodes, c'est rechercher vraiment comment les personnes s'en emparent avec leurs propres mots pour pouvoir justement raconter simplement ce que c'est ces droits, parce que dans toute situation il y a lieu de pouvoir en parler. Merci Sabine. Quelques problématiques, Xavier, aussi, que tu peux percevoir ?
Oui, peut-être je vais en dire trois. La première a déjà été évoquée plusieurs fois et par Sabine sur la question de l'évaluation, et en particulier parce que en fait, on nous demande pas, enfin, actuellement, dans le contexte ville de Lyon, politique culturelle municipale, le sujet de droit culturel est bien intégré maintenant, notamment dans la charte de coopération culturelle, mais il nous reste à construire un peu d'indicateurs, en tout cas qu'on puisse valoriser des choses qui se font, quand il y a des choses qui se font, et ça c'est un peu à inventer. Il faut trouver des vocabulaires, des formulations à trouver, parce que sinon, en fait, on va continuer à faire des choses, mais on va toujours continuer à nous demander les mêmes indicateurs chiffrés de fréquentation, de critères quantitatifs, etc. Donc, il y a ça. Après, sur la question, moi qui m'intéresse sur la question du patrimoine, de la participation à la vie culturelle, au sens de la définition de ce qui fait patrimoine, dans la construction d'un récit collectif, etc. Un des obstacles en ce qui nous concerne, pour moi, c'est la question de l'échelle de territoire. Et Lyon n'est pas un village, donc comment on s'y prend pour travailler avec un territoire ? On n'a pas non plus une succursale du musée dans chaque arrondissement. Donc, en fait, on n'a pas cette tradition, c'est pas une tradition, mais cette histoire des bibliothèques qui a choisi la proximité avec un travail vraiment qui est implanté institutionnellement. Donc c'est pas le cas de Gadène. Donc on a notre petit vélo musée, mais c'est pas encore l'équivalent de voilà. Donc ça rejoint. Il y a plein de choses qui se rejoignent avec notamment la conception des écomusées, qui est aussi un horizon complètement utopique où on dit il y a pas de collection, mais il y a un patrimoine. Il y a pas de visiteurs ou public, mais il y a des habitants. Il y a pas de mur, mais il y a un territoire. Et puis peut-être la troisième chose. C'est quoi déjà ? Qu'est-ce que j'avais envisagé ? Oui, c'est peut-être la question de
l'inertie, tu
parles de la réflexion, enfin du temps, quel temps on consacre. Parce que je vois ce qui, dans les métiers du musée, ce qui est le plus proche peut-être de cette réflexion, c'est les métiers de la médiation. Donc déjà la question de savoir comment on partage vraiment dans tous les métiers. On disait tout à l'heure sortir de la sphère culturelle, parler de droits culturels ailleurs que dans la culture, mais déjà dans nos institutions qui sont, quand elles ont une certaine taille, elles sont assez rapidement cloisonnées en métiers qui eux-mêmes ont des postures professionnelles, développent aussi des doctrines professionnelles, dans les collections, la médiation, les expositions, il y a plein de choses qui se développent et qui de professionnalisme, et si on était critique, de cléricalisation presque des professions et des métiers, et du coup quel temps on consacre dans le feu de l'action à des moments où on s'arrête et on réfléchit un peu de façon plus transversale, plus philosophique, plus fondamentale, on parlait d'inquiétude au sens un peu stress, etc., mais moi j'aime bien aussi comment on peut rester collectivement très inquiet au sens sans repos vis-à-vis des responsabilités d'une institution qui a tout face à des gens qui n'ont pas forcément grand-chose. Donc il y a ça. Et j'ai bien aimé aussi une réflexion en relisant pour préparer aujourd'hui ce qui a été exprimé dans cette journée que j'évoquais tout à l'heure qui concernait les musées et les droits culturels. Il y a une historienne de l'art qui a été conservatrice du musée de Berlin, du mur de Berlin, pas du musée, mais du mur de Berlin, qui s'appelle Gabi, son nom, que vous connaissez sans doute parce que Dolph Bonnekamper, et qui dit, elle dit un truc intéressant, c'est sur le fait que c'est compliqué de travailler sur ces questions-là, quand ça remet pas mal de choses en cause, et elle dit, si on invite à la participation, on aura des problèmes de sélection, mais comme il se doit, mais ce n'est certainement pas pour ne pas avoir de problème qu'on devient conservateur du patrimoine. Et puis elle dit un peu plus loin aussi, c'est pas commode, tout ce qui sera dit, on ne pourra plus passer outre. Ça ne va pas faciliter les choses, mais il faut admettre que ni la convention de Faro, ni la déclaration de Fribourg ne sont faites pour faciliter les choses. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la question de M. Jourdain, il ne s'agit pas de se flageller, de se dire tout ce qu'on a fait c'était nul, le problème n'est pas là. Mais si on dit trop vite, en fait on était déjà dedans, c'est pas forcément complètement fou si on évalue ça et si on met des critères. Mais en même temps, il y a quelque chose de tellement radical si on va au fond des choses qu'en réalité, si on considère que nos maisons, nos métiers ne sont pas là juste pour dire ça fait, on a fait le job, on peut rentrer à la maison, c'est bon. Mais du coup, ça pose une vraie question qui renvoie pour moi à ce que j'évoquais tout à l'heure sur la dimension plus personnelle aussi, au-delà de nos métiers, les convictions, les valeurs qu'on porte. Et c'est vrai que quand on commence à établir des relations avec des personnes physiques ou morales, c'est-à-dire des personnes physiques ou des organisations, des partenaires, des parties prenantes, comme on dit quand on veut cartographier des parties prenantes sur son territoire, qu'est-ce qu'on fait de ces liens qu'on tisse, en fait, qui sont plus de même nature que consommation de l'offre. Donc, en fait, on établit des relations. Alors, on peut le faire pour un projet, mais si ces relations sont fortes, qu'est-ce que ça devient ensuite? Parce que souvent, on passe à d'autres choses, on passe à d'autres projets. Et donc, au bout d'un moment, ça peut devenir lourd. Et puis, à un moment donné, on est aussi, on fait qu'un métier. Et puis, on a nos horaires de travail. On va pas non plus passer notre vie à... Voilà, on peut. Il y a des gens qui le font, mais pas tous. Et dans une équipe, on peut pas demander à tout le monde de passer sa vie à continuer des relations amicales ou de complicité avec tous les gens avec qui on a construit ces relations dans la réciprocité, parce qu'on aurait voulu aller très loin dans les fondements de nos missions.
Il y a un petit truc là-dessus que j'aime à dire. C'est vrai que là, chez les acteurs, on sent bien une accumulation d'actions qu'on a l'impression de faire au coup par coup, et que c'est ça qui fait perdre le sens plutôt que d'aller chercher à installer des pratiques. Rien que ça, de changer de terme entre action et installer des pratiques ou développer des pratiques, ça fait changer de posture et finalement, ça redonne vraiment du sens aussi aux liens qui peuvent être tissés entre les personnes, parce que les personnes, après, elles n'ont pas forcément besoin de nous pour pratiquer. Or, elles ont besoin de nous souvent pour prendre part à des actions qui sont temporaire ou épisodique ou au coup par coup. Peut-être est-il temps de vous laisser un peu la parole aussi, si vous avez des questions ou des idées aussi à partager. Des gens qui arrivent.
Bonjour. Moi, c'était une petite réaction par rapport à, sur le HO. J'avais une question sur les récoltes visuelles là, qu'on a pu voir comme ça. Est-ce qu'elles sont en ligne? Est-ce qu'elles sont accessibles? Et après, j'avais une petite question aussi sur la réciprocité asymétrique. C'était pour savoir, réciprocité, vous l'avez expliqué, mais pas asymétrique. Voilà.
Donc, les récoltes, oui, elles sont accessibles. Sur le site de la bibliothèque départementale de la Manche qui s'appelle bibliomanche.fr. Donc il y a une partie du site qui est consacrée au schéma de développement de la lecture publique. Voilà, il faut aller dans la partie pro. Et donc il y a une plaquette de présentation du schéma qui a été faite et on y retrouve les restitutions visuelles. Il y a aussi le rapport complet, mais là, c'est pour les insomniaques.
Je me permets d'ajouter qu'on va grouper sur les pages BPI Pro de la journée, non seulement les ressources qui qui vous ont été partagées, mais d'autres comme celle-là pour aller plus loin, entre guillemets, y compris pour les insomniaques.
Ah oui, j'aurais pas dû citer. Vous demanderez à Patrice Meyerbich qui l'entendait par là. Non, moi ça m'a parlé. L'expression m'a parlé parce que en fait, ça renvoie aussi beaucoup à ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure sur est-ce que ça vaut, est-ce que aller dans cette direction, ça nous entraîne à relativiser, à dire que tout se vaut, etc. Et en fait. Je vais prendre un exemple concret. Alors, je prends un exemple risien, parce que Riz, s'intitule toujours les Riziens. On a fait un jour un projet qui partait de la médiathèque, parce que les idées venaient de partout, qui partait des questions des compétences culinaires. Le constat qui était fait par le nombre de personnes dans le quartier qui venaient emprunter des livres de cuisine, et notamment une personne qui avait fait une réflexion en disant la recette de la chorba là dans le livre, c'est pas la bonne. Enfin, moi, je bon. Et donc, je ne sais pas si Delphine est, ouais, elle est encore là. Vous rappelez Delphine cette histoire-là. Voilà. Et on a mis en place. Alors les collègues de la médiathèque ont organisé des ateliers où, on a organisé tout un truc où on est allé ensemble faire des courses avec des personnes qui s'étaient portées volontaires dans le public, des personnes qui fréquentaient la médiathèque. Pour organiser, on a fait des soupes et on a organisé une soirée après, etc. Et en fait, ça confrontait un peu la question des savoirs savants contenus dans les livres et puis des compétences que pouvaient détenir des personnes. Et en fait, alors je ne sais pas si c'est le meilleur exemple pour répondre exactement à la définition de la responsabilité, de la symétrie, de la réciprocité, mais on voit bien que dans ce dialogue de confronter les savoirs, Patrice Meyerbich a beaucoup insisté sur, finalement, pour ramener beaucoup de choses à la. Au terme de savoir, en déclinant le mot savoir de plein de façons différentes. Et simplement sur les échanges aussi, dans les nouvelles expositions qu'on met en place pour raconter l'histoire de Lyon, il y a un certain nombre d'endroits où le musée propose un récit avec des collections, avec des compétences, des savoirs scientifiques, des savoirs d'experts, des savoirs de militants associatifs qu'il essaye de rassembler pour les exposer. Mais en fait, le travail n'est pas terminé. En fait, ce qui se termine, c'est quand l'exposition est visitée et que d'autres personnes viennent et qu'à un moment donné s'enclenche un dialogue, un débat, éventuellement des désaccords. Et donc, la symétrie vient du fait que le musée est beaucoup plus, pour prendre l'exemple du musée, beaucoup plus riche, beaucoup plus, ou même dans, on peut parler quand je sais pas quand on parle de pédagogie inversée dans le monde de l'éducation.
C'est ça, j'allais dire, une relation entre professeur et un élève. Il y a forcément une asymétrie. L'élève considère qu'il a à apprendre de son professeur, et pourtant ça ne veut pas dire que forcément on doit être dans une humiliation de la personne parce que et de la considérer comme non sachante. Au contraire, quoi. C'est là où on retrouve la réciprocité et la notion d'échange de savoir qui peut se passer, tout en reconnaissant qu'il peut y avoir des moments, des situations où il y a asymétrie parce qu'on a juste besoin d'apprendre de l'autre. Voilà. Et ce qui est problématique, c'est quand on enferme les positions des uns et des autres entre ceux-là, ce sont les sachants, et ceux-là, ce sont les non-sachants, et qu'on catégorise les personnes de cette façon-là. C'est pour ça que, effectivement, la réciprocité asymétrique est importante comme concept pour comprendre ça, qu'on peut être dans une relation réciproque sans pour autant être complètement dans la symétrie. Dans la symétrie. Enfin, bref. On fera un schéma.
N'hésitez pas à poser vos dernières questions.
Vous avez faim ?
C'est ça. C'est ça qu'on a fait ensemble ce soir-là, quoi.
Comment alors déconstruire nos postures et ne pas... moi, je suis confrontée régulièrement à des habitants qui ont une vision et des a priori sur l'institution qui font que ça fait un barrage pour eux de pousser la porte et d'entrer. Et du coup, y a déjà ce barrage-là de l'institution, du mur. Et puis, il y a aussi la posture de professionnel avec tout ce que ça induit, de ce qu'on leur a transmis en tant qu'enfant ou adulte quand ils étaient petits, avec une vision aussi qui est de notre temps, du métier. Enfin, voilà, comment est-ce qu'on peut... comment travailler ça, cette question de déconstruction de nos postures pour justement montrer que ben, on est là, on est disponible au dialogue, à la discussion.
Ouais, c'est une question, enfin, c'est peut-être, pour moi, c'est la question la plus difficile que vous posez, effectivement. Peut-être parce que aussi, on est programmé, on arrive avec des compétences qu'on a apprises dans des formations professionnelles en général, et puis on arrive dans des organisations qui sont très cadrées, avec des choses à faire, et c'est vrai qu'on peut pas, enfin je pense que c'est pas humainement possible de tout faire en même temps, c'est-à-dire qu'on a déjà, il y a déjà un certain nombre d'organisations qui sont mises en place pour permettre de l'accès, à un moment donné dans le travail sur les droits culturels, on distingue des niveaux aussi, l'accès, la pratique, la contribution, la participation. Donc c'est aussi des niveaux qui peuvent, on peut l'approcher de façon différente. On peut aussi peut-être, je sais pas, faire évoluer l'accès vers une pratique et puis éventuellement aller vers jusqu'à une participation à la définition de choses. Ce qui me paraît très compliqué, voire impossible, c'est de vouloir continuer à faire à fond tout ce qu'on fait en médiation, en démocratisation, en accès, etc. Et en plus de tout ça, faire encore autre chose qui concernerait d'autres gens. Mais c'est des questions vraiment très complexes. Moi, je pense on a utilisé, je ne sais pas si depuis ce matin, on utilise la question de l'expression de non-public.
C'est ça. Déjà, déconstruire les mots qu'on utilise pour parler, ça aide à changer des fois de posture simplement parce qu'on a utilisé un autre mot. L'accès à la culture, on voit bien combien ça écarte la culture des personnes puisqu'il faudrait dépasser je ne sais quel fleuve, quel pont traverser, pour y accéder, et accéder à quelle culture, à quoi, c'est toujours aussi abstrait, comme le disait Patrice ce matin. Donc déjà, un travail sur les mots utilisés paraît important. Ensuite, vous dire qu'il n'y a pas de recette miracle là-dessus, et par contre des pistes au fur et à mesure qui se dessinent, au fur et à mesure du travail qui est fait par les acteurs de terrain, et que fait finalement cet échange et ce partage là entre acteurs est aussi hyper important. Autre point aussi, il me semble que se dire que on va sur le terrain parce qu'on a des objectifs à remplir, ça paraît déjà un compromis. Se dire qu'on va sur le terrain pour établir des relations avec des personnes et que ça prendra le temps que ça prendra, voilà. Déjà, ça change aussi peut-être la façon de parler et de s'exprimer, d'être en relation aux personnes. Encore faut-il que l'émission soit... accepter cette mission-là, soit acceptée, de perdre son temps dans la relation.
Question un peu rapide. Ma question s'adresse à Sabine Métral. Est-ce que vous auriez eu un exemple d'action qui vous semble particulièrement représentative de ce que vous avez mis en place à la suite du schéma de lecture publique que vous avez élaboré ?
Il y a pas mal. Il y en a pas mal. En fait, en plus, nous, ce qui nous a semblé important, c'est que maintenant, on a donc des orientations stratégiques, des axes de développement prioritaires. On en a 5. Et encore aujourd'hui, donc, on travaille en groupe au sein de la bibliothèque départementale. Voilà. Et tous les collègues sont impliqués dans un ou deux groupes pour décliner des actions tous les ans qui vont permettre donc de développer les axes. Donc voilà, donc il y a toujours un travail vraiment de transversalité. Donc par exemple, donc sur l'axe apprendre et informer, dans lequel on aborde les questions de l'inclusion numérique, de l'illettrisme, de prévention contre l'illettrisme, ou du rôle citoyen de la bibliothèque. Donc on a donc voilà une petite action concrète. Enfin, c'est qu'on a réussi à obtenir le recrutement d'un conseiller numérique France Service à la bibliothèque départementale en le justifiant par rapport donc à ces objectifs-là. Donc voilà, c'est ça qui nous a permis de le recruter. On a signé des conventions de partenariat avec des centres de formation et de prévention illettrisme. Donc voilà, et on s'engage à leur proposer, enfin à construire avec eux, voilà, tous les ans des actions. Donc voilà, on fait venir des conteurs ou des auteurs donc dans ces organismes de formation qui sont vraiment maintenant partenaires, qui sont nos partenaires comme on était jusqu'à présent partenaire des bibliothèques, on est aussi maintenant partenaire des centres de formation, de ce type de centres de formation. On va travailler aussi, on répond aux appels à projets culture santé. Donc voilà. Et ce qui change un petit peu aussi, c'est que jusqu'à présent, donc on proposait nos services. Voilà, on avait un catalogue de services qu'on proposait. Et donc maintenant, on fonctionne plus sur le principe de l'appel à projet ou de l'appel à manifestation d'intérêt. C'est-à-dire qu'on dit bon bah voilà, on vous accompagne. Donc, à mettre en place un programme d'action culturelle, voilà, sur une thématique que vous souhaitez développer. Et nous, on vous accompagne. Donc voilà. Donc il y a plein de voilà. C'est sur les formations aussi. Hein. Le catalogue de formations qu'on propose tous les ans à nos bibliothèques, on le construit donc par rapport à nos axes de développement. Voilà, on le construit par rapport, parce qu'on a un axe de développement sur développer l'attractivité des bibliothèques, faire des bibliothèques des services de proximité. Donc voilà, vraiment, on est vigilant à chaque fois à proposer des formations qui sont en cohérence avec ces axes-là.
Bonjour, Éléonore Clavrol de la BPI. Juste pour donner un petit élément... Peut-être pas de réponse directement, mais à la question précédente, donc comment on fait, qu'est-ce qu'on fait. Juste pour vous dire que la BPI, l'ANSIB et le CFIBD sont en train de travailler à l'organisation de deux journées d'études qui vont s'appeler la bibliothèque à l'épreuve des diversités, au cours desquelles forcément il y aura des exemples qui viendront alimenter cette réflexion. Donc, ce sera le 17 janvier à la BPI, le 18 janvier à l'ANSIB. Les structures des deux journées sont les mêmes et les intervenants sont différents. Donc, évidemment, si on assiste aux deux journées, on a encore plus d'exemples et de réflexions. Mais vous pourrez aussi choisir votre lieu géographique. Et enfin, voilà. Je pense que la question des droits culturels en filigrane traversera ces deux journées qu'on vous propose. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais je pense que d'ici une dizaine de jours, ça devrait être le cas. Merci.
On va terminer cette matinée. On vous donne rendez-vous donc à 14h pour...